Bien, ben bonjour à tous. On va commencer aujourd'hui par parler des perspectives de solution du problème dont on parle depuis quelques semaines, de la matière noire. Donc, plusieurs solutions vont sans doute être apportées par les instruments futurs. Donc, je vais essayer de vous parler de quelques instruments. Alors, dans les grands observatoires, il y en a de deux sortes. Je dirais qu'il y en a d'abord, ces trois ici sont de petits champs, c'est-à-dire on peut regarder de façon très profonde une petite région du ciel. Alors, par exemple, pour commencer, ce qu'on appelle Extremely Large Telescope, pour être très prétentieux, mais qui est vraiment très très grand, c'est-à-dire 39 mètres. Si vous voulez voir la taille, vous voyez qu'il y a des petites voitures ici d'astronomes, qui sont quand même très petites, et qui est en construction, donc qui va sans doute commencer vers 2020 à donner des résultats, mais ce sera des petits champs avec des tas d'instruments optiques et infrarouges. Vous avez un autre télescope spatial qui va remplacer le Hubble Space Telescope, qui va avoir 6 mètres de diamètre, qui va être lancé en 2018, mais toujours avec des petits champs. Et vous avez déjà en opération maintenant ALMA, qui a été inauguré en 2013 sur le plateau dans le désert d'Atacama, qui contient une soixantaine d'antennes de 12 mètres et qui marche en rayonnement millimétrique, donc qui permet de regarder la poussière et les molécules très loin dans l'univers. Donc, avoir vraiment donc ces trois observatoires vont permettre de connaître la physique des galaxies, l'histoire de la formation des étoiles et des structures dans l'univers, mais n'auront pas un intérêt cosmologique comme je vais le présenter pour les trois autres suivants. Donc on va se concentrer aujourd'hui sur ces trois instruments-là, qui sont des instruments statistiques, car ils ont un grand champ. Quand je dis grand champ, c'est plusieurs degrés carrés, on va voir, et qui vont essentiellement, leur but, c'est de faire tout le ciel, enfin tout le ciel disponible, c'est-à-dire mettons 20 000 degrés carrés dans l'hémisphère sud, essentiellement. L'espatial est aussi dans l'hémisphère nord, bien sûr. Donc, ce que vous avez, c'est d'abord le Square Kilometer Array. C'est un télescope radio qui fera en surface 1 km carré. Mais vous voyez, ce n'est pas 1 km sur 1 km, c'est une surface d'un kilomètre carré, mais répartie en plusieurs antennes. Donc, il y aura des antennes de taille moyenne, 12-14 mètres, mais un très grand nombre. Alors, ces télescopes seront à la fois en Australie et en Afrique du Sud. On va le présenter avec plusieurs fréquences tout à l'heure. Un très gros télescope de 8 mètres de diamètre au sol, au Chili, essentiellement piloté par les États-Unis, mais aussi les Français participent, où il y aura essentiellement un très grand survey avec un grand nombre de couleurs qui permettent d'avoir des redshifts photométriques. Et puis, essentiellement aussi, le satellite Euclide qui va être lancé par l'Agence spatiale européenne ESA en 2020. Et en 5 ans, il va obtenir toute une carte du ciel avec un grand nombre d'outils. Alors, tous ces instruments à grand champ dont on va parler aujourd'hui vont justement arpenter l'univers et nous faire mieux connaître la matière noire et aussi l'énergie noire, donc tout le secteur noir, avec un certain nombre d'outils, au moins 4 ou 5 outils, qu'on va présenter. Alors, le premier outil, on appelle BAO, ça veut dire Baryonic Acoustic Oscillation, qui, on en a déjà parlé, hein, vous savez qu'au début de l'univers, le plasma, donc les baryons, les protons, les électrons sont en équilibre avec les photons, avec des oscillations acoustiques. Et lorsque l'univers se recombine, on fige ces structures qui ont la plus grande structure à une taille qui est l'horizon sonore à cette époque-là, qui fait 150 mégaparsecs. Et ces structures sont gelées dans la structure des baryons. Donc si on regarde, on va s'en servir de règle. Ici, on a dessiné une règle qui a 150 mégaparsecs. Et l'observateur va regarder à des instants différents dans l'univers, donc des redshifts différents, cette règle, et va pouvoir donc savoir de combien s'expanse l'univers. Donc savoir si on sait aujourd'hui que l'expansion de l'univers est accélérée, mais on le sait vers z égale 0, très proche de nous. Que s'est-il passé dans le futur? À partir de quand cette expansion s'accélère? Est-ce qu'il y a eu d'autres mouvements? Donc on va le savoir en mesurant ces milliards de galaxies qui vont être mesurées par ces télescopes grand champ dont je vous parlais, les trois au moins. On va pouvoir tester à la fois la matière totale, la matière noire, et puis aussi l'énergie noire lambda et des biais, etc. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui sur 50 000 galaxies nous donne un petit aperçu de ce qu'on va pouvoir faire. Ici, on a vu que dans les 50 000 galaxies du Sloan Survey, on a pu déjà détecter dans le spectre de puissance de ces structures une petite oscillation acoustique. Alors on voit qu'il y a de grandes barres d'erreur, donc on ne peut pas en tirer quelque chose de vraiment pour distinguer entre un modèle ou un autre, mais lorsqu'on aura des milliards de galaxies, on va pouvoir avoir assez de précision pour en tirer beaucoup d'enseignements sur les modèles, par exemple les modèles de gravité. On sait que si on a une autre gravité qu'Einstein, par exemple, on aura la loi de croissance des fluctuations sera différente en fonction du temps. Donc c'est ça qu'on voudrait savoir. Alors voici par exemple ce qu'on prédit qui sera détecté par ces instruments, certaines oscillations acoustiques. Évidemment, cette structure, elle est isotrope dans les deux directions. Ici, l'observateur a une direction, la ligne de visée, qui est mesurée par les vitesses, et perpendiculaire, la distance perpendiculaire qui est mesurée autrement, par des angles. Donc on aura sans doute une façon d'avoir la constante de Hubble avec plus de précision aussi. Donc que fait-on aujourd'hui avec cet outil de BAO ? On a déjà des grands surveys avec le Sloan, par exemple le survey BOSS, qui veut dire justement baryon oscillation spectro-survey, qui a déjà des barres d'erreur qui sont relativement petites. Ici, on est en fonction du redshift, mais vous voyez que le redshift est très voisin de zéro, c'est-à-dire qu'on est encore dans la banlieue de notre groupe local. Ici, on a une quantité qui dépend de la distance angulaire, donc la distance angulaire dépend de oméga et de lambda, donc on est déjà en contraint ces valeurs-là, et la constante de Hubble. Et on voit que les données, pour l'instant, sont conformes au modèle standard, il n'y a pas de surprise, mais on s'attend à trouver plus de surprises, peut-être plus tard, à plus grand redshift. Alors, est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui aller à plus grand redshift? Oui, un petit peu, grâce aux absorbants Lyman alpha. Ces absorbants sont devant des quasars lointains. Alors, dans le survey du Sloan, il y a 137 000 quasars qui ont pu être exploités. Et donc, ces quasars étant assez lointains, on peut détecter des structures qui absorbent dans l'arrêt de l'hydrogène Lyman alpha à des différents redshifts, par exemple entre z égale 2 et 3. Donc, vraiment, on commence à sonder l'univers lointain. Et à partir de ces raies de Lyman alpha, voici ce qu'il a pu être détecté. Donc, vous voyez qu'on a un petit bout d'oscillation acoustique de baryon. En rouge, vous avez les points observés, donc Lyman alpha et quasar. Et puis, en gris, vous avez le modèle. Donc, pour l'instant, on s'aperçoit encore que les barres d'erreur sont très grandes. On ne va pas pouvoir distinguer plusieurs modèles. Mais c'est quand même très encourageant de voir qu'on a pu détecter ces oscillations acoustiques à grand redshift, avec un nombre finalement relativement restreint de quasars. Il y a quand même un tout petit peu des petites tensions qui commencent à se pointer. Ici, vous avez en rose une figure de mérite, comme on appelle, c'est-à-dire dans un diagramme qui contient la distance de Hubble, c'est-à-dire C sur H, et puis la distance angulaire qu'on a présentée tout à l'heure. On a la fonction de corrélation des Lyman alpha entre elles, en bleu, et puis en rose, Lyman alpha avec les quasars. Donc on a ces deux contraintes. Et lorsqu'on les combine, on a les contours en noir. On voit que le meilleur fit de ces données sont un petit peu en deçà de ce qui est prévu par Planck. Ici, Planck, c'est ce qui est en vert. Je ne sais pas si c'est très visible, mais on a une petite boîte d'erreurs ici en vert qui semble complètement déconnectée du meilleur fit ici. Alors évidemment, ces courbes sont à 2 ou 3 sigma, donc on a pu estimer que les deux données étaient différentes à 2,5 sigma. Ce qui vous montre déjà qu'on est presque sur le point de trouver un désaccord. Pour l'instant, c'est encore à 3 sigma, c'est encore dans le bruit. Donc on sent qu'il y a peut-être des choses à découvrir qui seront en dehors des modèles standards. Parce qu'en fait, quand on regarde les résultats de Planck qui a été lancé en 2009 et qui ont eu des releases en 2013-2015, ils sont très très jolis, ils sont très précis. Mais les gens sont en général un peu déçus parce qu'ils n'apportent rien de nouveau. On ne fait que confirmer le modèle standard qui avait apporter WMAP, mais quand même, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quelques tensions qui se révèlent de temps en temps. Alors, lorsqu'on aura des milliards de galaxies, on voit bien qu'avec les instruments futurs, on va pouvoir régler ce problème et savoir si vraiment il y a quelque chose à obtenir. Alors, un deuxième outil, c'est ce qu'on appelle RSD, ou Redshift Space Distortion en anglais, qui est simplement le fait qu'il y a une asymétrie, enfin une anisotropie, entre la séparation des objets dans le ciel, ici, qu'on mesure avec l'angle dans les surveys, et puis la distance sur la ligne de visée qui est mesurée par les vitesses lorsqu'on est en voisinage d'une structure, par exemple un amas de galaxies. Alors on sait que l'amas de galaxies crée un potentiel gravitationnel, donc les dispersions de vitesse des galaxies sont assez fortes et on a des grands écarts à la loi de Hubble, à la loi d'expansion. Donc ça crée ce qu'on appelle doigt de Dieu, on l'avait vu dans les surveys. Et puis on a aussi un effet qui est au bord des amas, on a une chute de galaxies qui sont attirées par les amas. Les structures se forment encore. Il y a des superstructures. Donc, ces deux anisotropies qui sont la dispersion au centre des amas et puis l'infall au bord des amas sont une signature caractéristique des structures qui vont se former et qu'on va pouvoir détecter lorsqu'on aura des millions et des milliards de redshift dans l'univers. On pourra savoir à quelle vitesse se concentre la matière. Donc c'est ce taux de croissance de la matière qu'on va mesurer avec ces surveys de galaxies. Alors qu'en est-il aujourd'hui de cet outil de RST ? On a pu déjà faire quelques mesures, par exemple avec VIPERS et puis d'autres surveys que vous voyez ici, listés ici. Donc dans ce diagramme séparation sur le ciel et séparation sur la ligne de visée, on commence à voir des anisotropies qui ne sont pas sphériques ici, on a des effets de vitesse. Et donc on a pu porter dans un diagramme qui est le taux de croissance de ces structures, donc savoir s'il y a de plus en plus de contraste en fonction du redshift. Et on a ici la courbe à laquelle on s'attend si la gravité est celle d'Einstein, c'est-à-dire la relativité générale, RG, et un certain nombre de courbes, des pointillés et des petits points ou dash points, etc., qui sont tous les modèles de gravité modifiée qui ont été proposés, par exemple un des principaux, Dvalli et al., le DGP, qui propose plusieurs dimensions, outre les quatre dimensions connues, ou des modèles F2R dont on a parlé dans les précédents exposés, donc des modifications à la loi d'Einstein. Et on voit que les surveys actuels ont des barres d'erreur telles qu'on ne peut distinguer aucun des modèles, en fait. Tous marchent aussi bien que la relativité générale. Donc mais on voit bien quand même qu'on est proche. C'est-à-dire que si on a beaucoup plus de galaxies que les surveys actuels, qui ont plutôt 10 ou 100 000 galaxies, on va pouvoir trancher et éliminer un grand nombre de modèles de gravité modifiée. Alors on voit déjà ici, par exemple, qu'il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, des tensions avec les derniers résultats de Planck. Planck ne mesure pas exactement la constante Hubble, mais mesure un certain nombre de paramètres et, moyennant des hypothèses sur le modèle standard, on peut préférer une valeur de la constante Hubble qui est de 67, qui a surpris un peu un certain nombre de personnes, parce que la mesure directe de la constante de Hubble par les céphéides, c'est-à-dire avec le télescope spatial de Hubble, qui mesure des étoiles variables et qu'on peut calibrer de façon empirique ces indicateurs de distance, montre plutôt 74. Donc on voit qu'il y a déjà des petites différences qui, pour l'instant, ne sont pas plus que 2 ou 3 sigma, mais qui, peut-être, dans le futur, vont nous révéler quelque chose de nouveau par rapport au modèle standard. Ici, on a, dans le diagramme donc, de l'énergie noire, oméga lambda et oméga m, la matière totale, on voit le point de Planck ici, et ce qui résulte, avec les barres d'erreur, des BAO, de Lyman alpha qu'on vient de montrer ici, et puis de la valeur d'oméga B des baryons, et on voit qu'on est un petit peu en dehors. Donc il y a tout de même, bien que Planck ait bien vérifié le modèle standard, il y a des petites tensions ici ou là. Alors ici, je définis un petit peu ce sur quoi on va s'appuyer pour essayer de savoir si on a la bonne gravité. C'est justement le développement de ces structures. Ici, on a vu dans les exposés précédents comment on peut simuler la formation de ces structures. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on connaît les fluctuations initiales, on connaît leur niveau, puisqu'on a ça dans le fond cosmologique. Et donc, le taux à laquelle ces structures croissent, donc le fameux facteur delta, qui est le delta rho sur rho, donc le contraste, en fait, on appelle ceci F, en délog de delta sur délog A, étant l'expansion de l'univers, on appelle ce facteur F le taux de croissance. Et en fait, il est paramétrisable en fonction d'oméga avec une puissance gamma, et on appelle ce taux gamma le taux de croissance par généralisation. Donc c'est par ce taux gamma que les trois instruments futurs vont essayer de tester la gravité modifiée ou pas, et aussi par les lentilles faibles, comme on va voir, puisqu'on aura une façon, comme on a vu, de cartographier la matière noire, mais aussi en ayant tous les redshifts de toutes les galaxies qui sont déformées. Donc c'est quelque chose d'un pas de plus. En général, on a toutes les galaxies imagées dans le cône envers une structure donnée, mais là, on aura toutes les structures à différents redshifts, donc une tomographie de l'univers dans sa matière noire. Alors, ces instruments, donc un premier est le SKA, donc Square Kilometer Array. Je vais le présenter brièvement. On a vu cette photo, qui est une photo, pour l'instant, photo d'artiste. Donc, c'est un projet qui va être construit, enfin, on pense qu'il va commencer d'être construit en 2017-2018, et ça va s'étaler jusqu'à 2020-2022, mais enfin, ces dates-là sont toujours très incertaines, car le budget n'est pas complètement certain jusqu'à présent. Donc ce domaine de longueur d'onde qui a été choisi, qui est de 2 cm au mètre, plus précisément 1 cm à 4 mètres, il est autour de l'arrêt de l'élément d'hydrogène, qui est l'élément le plus abondant de l'univers. On sait que le H1, l'hydrogène atomique, c'est l'élément le plus abondant, et il y a une raie spectrale qui est à 21 cm, et c'est celle-ci que l'on va essayer d'utiliser pour cartographier toutes les structures. Alors évidemment, si on veut aller jusqu'à z égale 10, 15 ou 20, on va être obligé d'aller à 4 mètres, hein, puisque c'est la longueur d'onde multipliée par 1 plus z. Donc à 4 mètres, on arrive à z égale 17 ou 19, donc dans la période de réionisation. Donc cette période de réionisation sera en effet un des éléments cartographiés par SKA. Et on voit que l'ambition est assez grande de cet instrument. Alors pourquoi il est vraiment beaucoup plus sensible que tous les radiotélescopes actuels? C'est que les radiotélescopes actuels sont des télescopes en général d'un pays donné. Par exemple, le VLA qui est aux États-Unis, on a en France Nancy, on a aux États-Unis Effelsberg. Chaque pays a son télescope. Pour ce cas, c'est une autre politique. C'est tous les pays qui sont mis ensemble. Donc c'est un instrument mondial qui n'aura pas de concurrent. Il y a à peu près 19 pays qui ont signé jusqu'à présent. Il y a la Chine, l'Inde, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Europe, le Canada, etc. Donc, c'est un télescope mondial. Donc, on a pu faire quelque chose qui serait 50 à 100 fois plus sensible que tout ce qu'on a aujourd'hui dans l'arrêt. Et puis, comme en continuum, on a une bande beaucoup plus grande, on peut aller encore plus loin, 1000 fois plus sensible donc, dans les continuums radio. Alors, la résolution angulaire, pour les objets qui seront très puissants, comme les noyaux actifs, vous aurez une ligne de base, c'est-à-dire les télescopes les plus lointains seront distants de 3000 km, ce qui permet d'avoir une résolution de 10 milliards de secondes, donc bien meilleure que le télescope spatial, par exemple. Alors, ce qui est aussi nouveau dans ces télescopes, c'est que c'est un petit peu de nouvelles technologies, si vous voulez. On a à la fois à haute fréquence des paraboles, comme on a vu dans le dessin, mais à basse fréquence et à moyenne fréquence, on aura d'autres types de télescopes, un peu comme celui-ci, où on aura des antennes qui ne bougent pas, des antennes fixes. Et au lieu d'avoir un délai pour faire des interférences entre les télescopes, normalement, on a un délai d'arrivée de la lumière, qui normalement, lorsque vous avez des paraboles, est tout à fait analogique. Vous inclinez votre parabole vers la source en question, et le délai entre deux paraboles dépend de l'inclinaison, donc dépend de l'angle où est la source. Donc, avec les délais entre les antennes, les délais d'arrivée des photons entre les diverses antennes, vous avez votre angle de direction où vous observez. Donc, les délais vont être analogiques ici. Donc, on n'a plus besoin de bouger les antennes. Les antennes vont être fixes. Ici, vous avez des tuiles à l'intérieur desquelles vous avez un grand réseau d'antennes. Ces antennes sont fixes. Donc, le coût de l'antenne va être très peu cher. C'est pour ça qu'on peut en avoir 1 million de mètres carrés. C'est le coût du parquet, en fait. C'est pas très cher. Par contre, tout le prix va être dans l'électronique. Il y aurait des fibres optiques. Vous allez corréler. Alors, pourquoi pas, puisqu'on a de l'électronique, on peut observer dans plusieurs directions. On a choisi d'observer dans 8 directions données. C'est-à-dire qu'on pourrait observer plus, mais à ce moment-là, ça coûterait plus d'argent. Donc, en 8 directions, c'est un peu le compromis, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que le champ de vue d'un télescope comme ceci, c'est 180 degrés. Vous avez tout le ciel. Mais vous observez, vous pouvez avoir de la résolution dans des directions privilégiées. Par exemple, on peut observer dans cette direction une galaxie, dans cette direction des pulsars, dans cette direction autre chose. Donc ça multiplie par 8, si vous voulez, votre télescope. C'est comme vous aviez 8 télescopes. Okay, donc c'est uniquement par des délais électroniques et des corrélations électroniques. Alors ça, on va voir plus tard quel est le nombre de données qui va arriver. Ça va être géant. Mais c'est le coût de l'électronique qui va remplacer le mouvement des télescopes. Alors donc voici un petit peu l'état qu'on s'imagine. Hein. Ici, vous avez des paraboles, comme on a vu. Ici, vous avez les tuiles à moyenne fréquence, à haute fréquence, et à basse fréquence, vous avez ce genre d'antenne ici, qui sera en Australie. Ces deux-là seront dans l'Afrique du Sud. Donc, les paraboles et puis les tuiles. Donc, le grand avantage ici, c'est la sensibilité. Hein. Vous avez une surface équivalente d'un million de mètres carrés. Donc, on verra, cette fois, ça va rendre possible l'observation de l'hydrogène dans les galaxies à un redshift jusqu'à z égale 5, alors qu'aujourd'hui, les plus lointaines possibles sont 0,3, même en intégrant un très, très grand nombre d'heures. On n'observe que des galaxies dans le voisinage de la Voie lactée, en fait. Alors ça, c'est très intéressant, parce que comme on a vu dans les premières séances, on sait que la matière noire dans les galaxies, elle est connue grâce aux courbes de rotation des galaxies spirales, et c'est essentiellement l'hydrogène atomique qui vous donne la matière noire. L'optique, en fait, actuellement, on voit des galaxies à z égale 5, mais uniquement en optique, et on n'arrive pas à dériver la matière noire des galaxies. Donc ici, on fait un petit calcul pour vous montrer que la fonction de masse des galaxies en H1 à z égale 0, celle qui est observée, ça va jusqu'à à peu près quelques 10 puissance 10 masses solaires par galaxie. Les plus grosses galaxies ont cette quantité d'hydrogène. Donc si on extrapole, voici en 360 heures quand même d'observation ce qu'on pourra détecter, c'est-à-dire à peu près 7000 galaxies à grand redshift, z égale 4,5. Et c'est très intéressant cette période de 0,5 à 4,5 parce que vous le voyez ici, on a la formation d'étoiles en fonction du redshift et on voit que l'activité, la formation des étoiles, le pic d'activité c'est à z égale 2 et ça commence à peu près à z égale 5. Donc la période la plus intéressante pour savoir si les galaxies ont du gaz qui vont former des étoiles, c'est essentiellement de 0,5 à 5, donc cette période-là, ou qui est pour l'instant complètement inexplorée. Alors voici un peu le type de galaxie qu'on va pouvoir détecter, par exemple des naines comme le nuage Magellan, le petit nuage Magellan, on va pouvoir le détecter jusqu'à z égale 1, mais c'est 51 qui a une masse à peu près moyenne d'hydrogène atomique jusqu'à z égale 2 ou 3, et puis M101 qui est une très riche en gaz, on peut en avoir 2000 galaxies par degré carré et on en aura à peu près jusqu'à z égale 4 ou 5. Donc je vous rappelle ici toutes les galaxies, toutes les courbes de rotation de galaxies. En général, la galaxie optique se termine ici, là justement où il n'y a pas beaucoup de matière noire. Et c'est tout ça qui nous indique la courbe de rotation plate, qui nous indique quelle est la distribution de matière noire. Et c'est ce qui est complètement inconnu hors du voisinage de la galaxie. On saura, par exemple, on sait qu'aujourd'hui que tous les baryons sont en dehors des galaxies. Ils ont peut-être été éjectés à une certaine période quand on a formé des étoiles. Quand ça, on va peut-être le savoir en connaissant la quantité de matière noire qu'il y a dans chaque galaxie, la quantité de baryons. Et ça, ce sera uniquement avec SCA qu'on va pouvoir le faire. Alors, ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est la recherche de petits corps, de petites naines noires. Alors, on a déjà dit à plusieurs reprises que la théorie standard prévoyait des milliers et des milliers, peut-être 100 000 petits satellites autour de galaxies comme la Voie lactée, et on ne les voit pas, donc ils sont complètement noirs, faits de matière noire. Alors l'idée est de dire, bon, ben, peut-être que comme l'hydrogène atomique est très étendu autour des galaxies géantes, si un compagnon passe au voisinage de gaz, il va peut-être accréter un peu de gaz. Donc on pourrait peut-être, en recherchant bien, en cherchant dans les vides ou dans les espaces vides d'étoiles, est-ce qu'on peut détecter des nuages de gaz qui témoigneraient de l'existence de tous ces halos noirs qui sont supposés par la théorie standard. Alors ça, c'était une recherche qui a été faite par un projet qui s'appelle Alpha-Alpha, qui a été faite à Recibo. On a un télescope de 300 mètres de diamètre, donc 80 000 mètres carrés, ce qui est le plus grand actuellement. Et ils ont regardé, bon, vous voyez ici, ça ne va pas très loin, c'est 6 000 km, donc c'est un petit redshift, 0,1, 0,2. Et ils ont regardé en point bleu, ce sont celles qui ont des détections d'hydrogène atomique H1, en rouge optique, en vert les deux. Et donc, pour l'instant, on a détecté pas mal de naines, mais aucune n'est noire. Ça, c'est assez embêtant. Mais en fait, bon, on est peut-être à la limite de la détection ou non de ces naines noires. Ici, on a le nombre de galaxies détectées dans ce genre de survey. Vous voyez que les galaxies normales sont ici, hein, comme la Voie lactée à peu près quelques 10 puissance 9, les plus riches 10 puissance 10. Et puis là, ils ont fait un gros effort pour détecter les petites galaxies en gaz atomique, jusqu'à 10 puissance 6 masse solaire de gaz atomique. Mais à chaque fois qu'on détectait dans le vide un petit peu d'H1, ils ont regardé optiquement et il y avait toujours des étoiles. Donc, par exemple, ce genre de galaxie complètement naine, avec un très très faible brillance, hein, on le voit à peine, mais il y a des étoiles, parle dans le survey de Sloan. Donc, aucune galaxie naine noire. Toujours des étoiles qui sont associées. Alors, le résultat peut être représenté dans ce diagramme. Ça, c'est un résultat récent de Janiovic et al. Du groupe Alpha-Alpha. Vous avez le rapport de la masse d'hydrogène H1 sur la brillance de la lumière en bleu, en fonction de la luminosité en bleu. Ici, vous avez les plus lumineuses, les plus massives. Et vous voyez qu'il y a une relation de proportionnalité entre la masse d'hydrogène et la luminosité, mais les plus petites ont plus de gaz en proportion. Donc, les dernières qu'ils ont détectées, c'est celle-ci et ces deux-là. Celle-ci, vous voyez que les contours en blanc sont les contours de gaz atomique. Et puis, vous voyez qu'ici, il y a une petite galaxie bleue, là, une petite luminosité. Donc, c'est ce point-là. Elle est détectée, donc ce n'est pas une naine noire. Mais apparemment, ils auraient détecté deux naines noires, enfin deux ou une, on ne sait pas trop, ces deux galaxies-là, qui seraient ces deux points rouges. Donc, peut-être les premières galaxies noires détectées. On ne sait pas ce que c'est. Hein. Alors, si on reporte ces galaxies sur la loi de Tully-Fisher, dont on a parlé fréquemment, ici, vous avez la courbe de rotation des galaxies et ici, la masse totale des baryons. Ces points-là ont l'air d'être un petit peu en dehors. Ce qui n'est pas encore certain, hein, c'est que simplement, il est très difficile de reconnaître la nature de ces objets. Ce qu'on porte en général dans l'abscisse, c'est la vitesse de rotation d'une galaxie spirale. Et donc, il faut connaître l'inclinaison. Il faut savoir si vous regardez un objet de face, vous ne détectez aucune vitesse de rotation, On ne sait pas ces objets s'ils sont vus de face, vus par la tranche. Donc si jamais ils étaient vus de face et que vous corrigez par l'inclinaison, vous pourrez très bien les rapprocher de la courbe. Donc pour l'instant, le fait qu'ils soient complètement dehors n'est pas vraiment certain. Mais vous voyez qu'on est encore une fois à la limite de trouver quelque chose. Et donc lorsque ce cas sera là, donc en 2020, on aura peut-être d'énormes découvertes à faire. Peut-être on va découvrir toutes ces naines noires qui ont été prédites. Alors un petit peu, on peut reporter aussi ce résultat sur cette courbe qui est la fraction de baryon dans les galaxies en fonction de la masse du halo noir. On sait que normalement la fraction universelle de baryon de l'univers, elle est bien au-dessus de celle qu'on voit dans les galaxies. C'est-à-dire que dans les galaxies comme la Voie lactée, qui a un halo noir de 10 puissance 12, on a à peu près 20% de baryon parmi ceux qui seraient possibles. C'est-à-dire 80% des baryons ont été éjectés quelque part en dehors des galaxies. Et les naines noires que l'on cherche sont ici. Donc on essaie de trouver est-ce que la pente de cette courbe va droit ou va tomber. En fait, ce qu'on prédit, ce que prédisent les résultats d'AlphaAlpha, c'est que cette courbe descend énormément, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de galaxies très très noires que prévu, puisqu'on n'a même pas vu le H1 dans ces galaxies par rapport à ce qui était prévu. Ça, c'est difficile à expliquer tout de même parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va éjecter les baryons de ces galaxies. Il n'y a pas d'étoiles, donc on ne peut pas dire que c'est de la supernovae et des vents stellaires. On pourrait dire que c'est la réionisation au début de l'univers qui va chauffer et enlever les baryons, mais cette réionisation prédit une petite chute, mais pas du tout une grande chute. Donc, pour l'instant, ce domaine est encore très ouvert et on espère que les instruments futurs pourront clarifier la question. Donc, pour le satellite Euclide, il y a énormément de projets qui sont prévus avec ce lancement en 2020. Alors, plusieurs outils, j'en dirais que quelques-uns. On va arpenter l'univers, un peu comme cette image le montre ici, c'est-à-dire on va utiliser tous ces outils dont on a parlé, BAO, RSD, aussi les lentilles faibles dont on va parler, les amas de galaxies, quand est-ce qu'apparaissent ces amas, quand est-ce que le contraste des structures est assez grand, ça va nous renseigner sur la gravité. Et tous ces outils vont pouvoir nous donner l'équation d'état de l'énergie noire, on écrit en général la pression est égale à un petit paramètre W dont on ne connaît rien et la densité ρ d'énergie noire. Et ce paramètre W, il est proche de moins 1 aujourd'hui, il est proche d'une constante cosmologique et on aimerait raffiner l'évaluation de ce W. On a aussi le fameux rapport gamma donc, que j'ai décrit, le facteur de croissance des structures qui va nous discriminer entre toutes les théories de gravité. Et puis aussi, on a toujours les milliards de galaxies et le spectre de puissance, on va pouvoir peut-être déterminer plus précisément la masse du neutrino et aussi les fluctuations avec beaucoup plus de précision, l'index spectral des fluctuations, etc. Alors pour la masse des neutrinos, voici où on en est aujourd'hui. Pour les neutrinos qui sont très peu massifs, c'est-à-dire les neutrinos ordinaires, où on sait qu'ils existent, dans le modèle standard des particules, ils n'ont pas de masse, mais on sait qu'ils ont une masse parce qu'ils s'échangent entre eux, il y a trois saveurs, électron, taux et muon. Et on sait qu'ils ont une masse assez petite, de l'ordre de l'électron-volt, et on essaie de contraindre de façon astrophysique leur masse en disant que, puisque ce sont des matières noires, des particules de matière noire chaudes, par leur libre parcours moyen, par leur free streaming, elles nettoient, elles balayent, elles détruisent en fait toutes les petites structures. Donc le spectre de puissance, quand on le compare avec celui qui est observé, ça nous permet de donner une limite sur cette masse de neutrinos. Et voici où on en est quand on cumule les structures, les grandes structures, et puis les informations du fond cosmologique de Planck. Alors on a une barre d'erreur qui va de 3 à 4, avec une masse de neutrinos qui peut aller jusqu'à 0,5, 0,6 électronvolts. Donc avec Euclide, on aura beaucoup plus de précision, puisque les grands surveys vont nous donner une précision sur le spectre de masse, de puissance du spectre, et ici on aura beaucoup plus que cette barre d'erreur sera bien diminuée. Alors ici on a une contrainte sur les neutrinos autres qu'ordinaires, on ne sait pas s'ils existent, par exemple le neutrino stérile qui a été évoqué à plusieurs reprises. Donc on aurait ici en pointillé la masse des neutrinos en keV, ici c'est 2, 5 ou 10 keV. Vous voyez qu'en couleur on a la densité de masse de la cold dark matter, de la matière noire froide. Alors si évidemment les neutrinos sont de 0,5, on aurait essentiellement de la matière noire froide. Si les neutrinos sont de 5 ou de 10 keV, à ce moment-là, on aurait très peu de matière noire froide et beaucoup de matière noire chaude, donc de la matière noire tiède. Donc tout ça, on n'en sait rien, mais on va pouvoir contraindre ceci avec Euclide. Alors voici, on a évidemment beaucoup de... Il y a un consortium de plus de 1200 personnes qui se penchent sur les prédictions qu'on peut faire avec Euclide pour se préparer au télescope qui va être lancé en 2020. Donc ils ont calculé précisément, avec ce qu'on sait des instruments, quelle est la barre d'erreur qu'on peut attendre sur justement ce facteur de croissance des structures en fonction du redshift et comparé avec les modèles de gravité modifiés. Donc vous voyez que les barres d'erreur pour Euclide vont être très petites. Les barres d'erreur aujourd'hui sont de cette amplitude-là et Euclide va observer entre 0,5 et 2. Vous voyez qu'on va pouvoir vraiment, si c'est la relativité générale, on va pouvoir le savoir avec une grande précision et éliminer tous ces modèles, par exemple le modèle de Dvalier et al. En vert ou bien des tas d'autres modèles de matière noire couplée avec l'énergie noire ou bien d'autres modèles ici. Donc on voit que on est vraiment sur le point d'éliminer un grand nombre de modèles de gravité modifiée. Ça va faire le vide, en quelque sorte. Alors, si je remets ça, alors là, ici, on l'avait normalisé à sigma 8, si on ne le renormalise pas, ça permet de voir un petit peu plus en détail. Il y a plusieurs estimations selon qu'on est optimiste, vous voyez en bleu, clair, ou pessimiste en orange. Mais enfin, même pessimiste, hein, les bases de Berdera sont très petites. Donc, on va pouvoir quand même éliminer pratiquement tous les modèles de gravité modifiée si... Euclide a assez bien ces spécifications-là. Donc, Euclide a évidemment le but principal de ce télescope, c'est de déterminer la matière noire et l'énergie noire, tout le secteur noir. Mais on aura beaucoup d'autres choses. Je passe en rapidité. On aura 15 000 degrés carrés d'observés, 12 milliards de sources. Et puis aussi, il y aura des redshifts à un spectro qui est à bord, qui pourra avoir 50 millions de spectros. Toutes les autres, on aura seulement des images. Et il faudra un autre survey, comme celui du LSST, au sol, ou alors d'autres grands télescopes, pour faire les redshifts de toutes ces milliards de sources. Ça va être surtout fait en photométrie, c'est-à-dire avec un redshift photométrique, plus que spectro, qui est beaucoup plus cher. Alors, par exemple, ici, au lieu d'avoir des lentilles fortes, aujourd'hui, on en a 10 ou 200, on va en avoir 300 000. On va s'intéresser aux lentilles fortes, en particulier. Alors, des lentilles fortes, voici ce que nous avons aujourd'hui. Les meilleures lentilles, il y en a 60 hein, avec le télescope spatial. Ce que vous voyez là, c'est 60 objets qui ont des anneaux d'Einstein ou des arcs autour d'une lentille. Alors, en général, la lentille est jaune, c'est des vraies couleurs. Hein. La lentille a un certain redshift devant vous et l'objet lointain, dont les rayons lumineux ont été déformés pour former un anneau d'Einstein, en général, il a une autre couleur, donc il est bleu. Vous voyez des anneaux bleus ici, donc c'est assez joli. Et avec ces lentilles fortes, on peut faire énormément de découvertes, comme on va le trouver. Alors ici, ça a quand même été accumulé en plusieurs années avec le Sloan et aussi l'ACS, hein, l'Advanced Camera de Hubble, ici. En 2 mois de Euclide, voici ce que vous aurez. Ici, vous avez les 60 du SLAX que j'ai mis là. Et voyez un petit peu, c'est multiplié au moins par 100. Déjà en 2 mois, donc en 5 ans de travail d'Euclide, vous aurez au moins 100 000 anneaux d'Einstein. Avec SCA aussi d'ailleurs. SCA va regarder la même surface en degrés carrés et peut-être on l'aura un petit peu plus tard. Alors vous allez me dire pourquoi le refaire avec SCA, mais ça va être tout à fait complémentaire. Parce que ça, SCA, c'est de la radio. On va l'avoir en continuum radio, donc on aura des données complémentaires, dues par exemple s'il y a un noyau actif ou un jet radio autour de la source. On aura un anneau d'Einstein qui sera un peu différent de l'anneau d'Einstein optique. Donc ça va nous donner des résultats complémentaires et donner encore plus de contraintes sur la matière noire. Alors par exemple, ce qu'on pourra déterminer, si on a 100 000 petits compagnons autour de la Voie lactée, comme ici, plein de halos noirs, ou alors si c'est de la matière noire chaude et qu'on n'a pas du tout de halo noir. Est-ce qu'on peut déjà aujourd'hui faire des études pour le savoir? Alors ça, c'est en effet ce qui a été proposé. Par exemple, vous avez ici une lentille, une lentille gravitationnelle qui fait un certain nombre d'images, c'est-à-dire qu'un quasar derrière a été dévié, la lumière qui est venue a été déviée par une lentille. Vous l'avez ici en radio, VLA 15 GHz. Vous avez une image ABCD. Eux, en fait, se révèlent être la lentille. On voit bien en optique, c'est le même objet. Vous voyez ABCD aussi. Et G1, c'est la galaxie lentille qui dévie le rayon lumineux et correspond à eux. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que vous avez des lentilles qui parfois sont multiples. Alors, elles sont multiples parce qu'on voit plusieurs galaxies, G1, G2. Donc, on a de la sous-structure visible. On a aussi de la sous-structure visible. Là, c'est très clair. Hein, on a une petite galaxie G4. Alors, tout ce qui est G, c'est les galaxies lentilles devant, et les arcs, c'est les galaxies derrière qui ont été amplifiées. Donc vous voyez que cette sous-structure G4 casse l'arc et est tout à fait visible. Donc ce qu'on cherche ici, c'est que s'il y avait beaucoup de petits halos noirs, on verrait ce genre de cassure d'arc sans voir la galaxie. Donc un halo complètement invisible. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est les cassures dues aux sous-structures visibles, aux petits compagnons visibles. Est-ce qu'on a parfois des cas où on voit l'arc complètement couplé sans qu'on ait de sous-structures visibles? Et c'est ce qu'on cherche. Alors pour l'instant, c'est quand même assez difficile, personne n'en a encore découvert. Voici un peu le genre de simulation qui est faite. On fait d'abord une modélisation tout à fait lisse d'une structure comme s'il n'y en avait qu'un seul galaxie assez massive. Et puis on superpose des petites sous-structures, des petits halos noirs dessus, et on regarde ce que ça donne. Ici, par exemple, vous avez un anneau d'Einstein vu en infrarouge avec le HST. Et ici, on superpose dessus ce qui est vu en radioastronomie, donc à quelques gigahertz de fréquence, avec une grande résolution qui est l'interféromètre Merlin ou l'interféromètre VLBI d'Européen. Vous voyez qu'on a une très très bonne résolution. Ici, on a 3 milliards de secondes de résolution. Donc, on peut même avoir plus de résolution qu'avec le télescope spatial. Donc, avec cette résolution-là, et donc SCA aura ce genre de résolution, on va pouvoir faire des contraintes assez grandes. Par exemple, ici, on a un exemple très clair où on a de la sous-structure, mais elle est visible. On a, par exemple, les données. Si on fait un modèle tout à fait lisse, on voit qu'on représente à peu près, mais quand on fait le résidu, c'est-à-dire les données moins le modèle, on voit que ce n'est pas bon du tout. On devrait trouver zéro ici. Donc, on voit qu'il y a des sous-structures. Donc, on voit que les sous-structures que l'on voit vraiment visibles, elles sont aussi visibles dans le modèle. Et voici la source. Donc, il est possible de pouvoir déduire parfois des sous-structures noires. Alors, voici un petit calcul d'une donnée observée donc, de lentille gravitationnelle d'Einstein. Et voici le modèle, tout à fait symétrique. Vous voyez qu'ici, l'arc n'est pas perturbé. Et on a rajouté une petite structure à la main, hein, c'est juste pour faire une simulation. Cette petite structure a une masse de 10 puissance 7 masse solaire. Alors, vous voyez que ici, là, l'anneau est un peu brisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas symétrique entre gauche et droite. Vous avez commencé à faire un petit trou. Donc là, ça nous montre qu'il y a un petit résidu ici, qui n'est pas là. Donc, on voit qu'on va être sensible jusqu'à des masses de 10 puissance 7 si elles sont juste sur l'anneau d'Einstein. Alors, évidemment, 10 puissance 7, c'est un peu faible. Si on prend une sous-structure de 10 puissance 8, alors évidemment, on voit mieux. Hein, on voit qu'on a cassé l'anneau complètement ici et que le résidu est assez grand. Donc, vous voyez que ça va être très facile. Si on a des sous-structures noires qui sont sur la ligne critique acoustique, on va pouvoir déterminer ces structures noires. Donc, est-ce que c'est possible? Alors, évidemment, s'il y a 10 puissance 9, a fortiori, hein, on a complètement perturbé l'anneau, on a des résidus qui sont assez grands. Donc, on voit que 10 puissance 9, on va pouvoir. Alors, évidemment, il faut que cette structure noire soit un petit peu dans la ligne critique pour avoir cette amplification. Alors, ce principe a été fait. Alors ici, vous voyez que la sensibilité à la masse est fonction de la position par rapport à l'anneau d'Einstein. Ici, ce que vous voyez en couleur, c'est la masse de la sous-structure en unité de puissance 10. Donc ici, vous avez puissance 10, puissance 9 et 3 puissance 8. Donc en bleu, si on est vraiment correspondant à l'anneau, on peut détecter 3 puissance 8. Mais évidemment, ici, vous ne pouvez rien détecter. Donc vous pouvez détecter que dans un certain anneau les sous-structures. Donc ça a été fait avec 12 anneaux d'Einstein. C'est ce qu'il y avait disponible, qui était bien mesuré avec un bon rapport signature-bruit. Donc c'est un papier récent de Vegetti et al. Et ils ont donc contraint la fraction de masse qu'il y avait dans les sous-structures noires. Donc ce que vous voyez ici, c'est les contours. Alors si on suppose aucun a priori, on a des barres d'erreur qui sont très grandes en bleu. Et si on fait un a priori sur le spectre de masse des sous-structures, en disant que c'est une loi de puissance avec alpha et que alpha c'est une gaussienne autour de 1,9, c'est à peu près ce qu'on observe. Hein. Donc à ce moment-là, on a des barres d'erreur qui sont plus petites. Et on commence à arriver à ce qui est prédit par la théorie standard, c'est-à-dire une fraction de 1%. 1% de la masse noire serait comprise dans les structures qui ont à peu près 10 puissance 8 masse solaire de masse. Donc on arrive, encore une fois, on est à une limite où on commence à trouver des résultats intéressants, mais qui sont encore dans le bruit. Et c'est pour ça que lorsqu'on aura 100 000 sources de lentilles gravitationnelles, on va pouvoir casser cette dégénérescence ici. Alors pour l'instant, voici un petit peu le genre de structure qu'on a. Alors, on en a plutôt une douzaine avec des anneaux d'Einstein, mais aussi, ce qui est très utile, c'est d'avoir plusieurs images. Là, on a quatre images ou cinq images. Ça, ça donne des contraintes. Il y a autant d'équations que d'images. Donc, vous pouvez contraindre la matière noire par toutes ces images-là. Ce qu'on a en optique, c'est infrarouge, ici optique. Vous voyez un peu le nombre d'anneaux d'Einstein qui sont un signal surbruit assez grand. Et puis en radio, puisqu'on va aussi observer avec SKA, ce sont les premiers anneaux d'Einstein qui ont été détectés, ont été en radio, en 87, c'était celui-ci. En fait, Einstein avait prédit la formation des anneaux en 1937. Il avait dit que lorsque la source et la lentille étaient exactement alignées avec l'observateur, on avait symétrie et donc formation d'un anneau, mais il avait considéré que ce serait complètement improbable d'avoir une telle coïncidence et que ce ne serait jamais observé. En fait, 50 ans après, c'est observé. Donc, il serait très content de revenir aujourd'hui, de voir qu'on en détectera peut-être avec Euclide 100 000 anneaux d'Einstein. Enfin, ici, donc, vous avez des anneaux ici complètement radio, donc qui correspondent à des quasars et à des jets radio. Donc, c'est avec ça que SKA pourra en avoir 100 000. Alors, on peut aussi rajouter à ces lentilles d'autres données. On sait qu'il n'y a pas que la position des images, la position de l'anneau. Ici, vous en avez un qui a été observé et reconstruit par les modèles. Et on a aussi des délais temporels entre les diverses images, parce que le chemin lumineux qu'il y a entre la source et l'observateur dépend de l'image, du chemin suivi par la lumière. Donc, par exemple, si la source derrière est un quasar qui a un pic de luminosité à un moment donné, ce pic va arriver d'abord en A, par exemple, et puis, une ou deux semaines après, il va arriver en D. Donc, on a un délai, en général, qui est de plusieurs jours. Et ce délai nous renseigne, évidemment, sur la distance et sur la constante de Hubble, etc. C'est une donnée supplémentaire qui nous permet de contraindre les modèles. Donc, rien qu'avec cet objet-là, il a été possible de contraindre H0, par exemple. Alors, en supposant d'autres hypothèses, par exemple, dans ces deux diagrammes-là, on a supposé que l'univers était plat, il n'y avait pas de courbure. À ce moment-là, on obtient une valeur de H0 qui est 82, un peu trop grande, et puis une valeur de W, de l'énergie noire, qui est moins 1,5. Vous me direz, ça, c'est assez loin de la valeur de 67 qui est préférée par Planck. Donc, si on veut avoir 67, à ce moment-là, il faut relâcher une contrainte de l'univers plat. Il faut supposer que l'univers est ouvert. La courbure n'est pas nulle. Et à ce moment-là, on peut avoir H0,67, mais à ce moment-là, on a un univers ouvert. Enfin, vous voyez que déjà, on est sur le point où on arrive à contraindre de façon intéressante ces valeurs-là. Et donc, on voit très bien l'utilité d'avoir énormément de lentilles gravitationnelles de ce type avec délai. On peut aussi utiliser ALMA pour avoir ce genre de contraintes. Ici, c'est un très beau résultat des premiers résultats d'ALMA en 2013, où il y avait seulement 16 antennes en cycle zéro, non pas les 60 antennes, mais 16. Donc, c'est relativement spectaculaire. Donc, Vieira et Tal s'étaient dit, bon, le télescope n'est pas complet, on va commencer par observer des lentilles, c'est-à-dire des objets amplifiés, ce sera plus facile. Et en effet, ils ont observé 26 objets et détecté 23, c'est-à-dire qu'ils ont détecté ce qui est en rouge ici. En grisé, c'est l'image optique faite avec le HST. Et en rouge, vous avez les contours de la poussière détectée par ALMA. Alors, ce qui est remarquable, c'est que chaque objet a demandé 2 minutes d'intégration. Et ils ont déjà 0,5 arcsecondes de résolution. Donc, vous voyez un peu les arcs gravitationnels qu'ils ont vus. Et il y a à peu près 10 sources dont le redshift est supérieur à 4. Ça a déjà, en même pas une heure, déjà augmenté le nombre de sources à grand redshift détectées par ALMA. Donc on voit que même ALMA, qui est déjà opérationnel maintenant, va pouvoir nous donner un grand nombre de lentilles gravitationnelles. Donc un travail de prospective qui a été fait par SEV justement cette année, et de savoir quel est ce qu'on attend en spec de puissance de la masse projetée avec ALMA. Alors ici, vous voyez, si les lentilles sont ponctuelles, évidemment, il y a une incertitude de plus. On ne sait pas si les halos noirs que l'on cherche, les tout petits halos noirs que l'on cherche, sont ponctuels ou sont déconcentrés. Donc, s'ils sont ponctuels, ils ont une très grande puissance de lentille. Et s'ils ne sont pas ponctuels, évidemment, ça va tomber. Ici, on a les grandes fréquences spatiales, donc les petites structures. Et donc, on peut faire des prédictions sur ce qu'on va trouver avec ALMA. Donc, c'est assez intéressant. Donc, si je fais le petit résumé de ce qu'on va avoir en lentilles fortes, rien que les lentilles fortes, à mon avis, c'est quelque chose de très intéressant. On va l'avoir à la fois par SKA, par ALMA encore plus tôt, par le LSST aussi, par Euclide, et on va très vite avoir une limite sur la fraction de masse noire qui est dans les petites structures, qui va être bien inférieure au taux prédit par le CDM. Donc très vite, dans quelques années, on va pouvoir savoir si la matière noire est chaude, tiède, froide, etc. Donc ça me paraît un résultat très intéressant. Et puis, il y a évidemment les lentilles faibles. Ça, on a déjà parlé, lentilles faibles qui permettent de cartographier la masse noire. Alors, par exemple, la collision entre amas, qui est quelque chose de remarquable pour séparer les matières baryoniques et les matières noires. Le boulet, on en a déjà parlé, vous voyez bien que le rouge ici, la matière baryonique, qui est complètement séparée parce que un petit amas qui est le boulet ici est passé au travers du gros amas. Donc on a vraiment séparé les deux. Et avec ce genre de collision violente, on peut contraindre la section efficace de collision de ces particules de matière noire, parce que s'il y avait eu des collisions, elles auraient été arrêtées au milieu. Elles n'auraient pas été traversées comme si elles ne se voyaient pas. Donc le boulet, l'amas qui est le plus contraignant, on a pu contraindre cette section efficace à moins de 1 cm carré par gramme, ce qui nous dit que, par exemple, les théories de collision, de self-interacting dark matter, ne sont pas tellement valables, puisqu'il n'y a pas de collision ici pour expliquer le boulet. Alors, vous allez me dire, on aura plein de collisions d'amas comme ça avec Euclide, certainement. Alors ici, on en a déjà quelques-unes, hein, on va les regarder. Alors, il y en a d'autres qui sont moins contraignantes que le boulet. Ici, on a Abel 520, où il y a des contours de matière noire qui ont été vus non coïncidents avec des galaxies, donc qui est plutôt coïncident avec du gaz. Donc ça a été pendant plusieurs années un sujet de controverse, qui est encore ouvert d'ailleurs. On ne sait pas. Alors, pour avoir cette matière noire au milieu, il a fallu supposer qu'il y ait une collision de 4, ce qui est un petit peu incompatible avec le boulet. Mais enfin bon. Certains ont mis en doute l'existence de cette matière noire, il est possible, hein, parce qu'en fait, la détermination des lentilles gravitationnelles dépend beaucoup de toutes les galaxies que vous avez derrière. Et si vous allez plus ou moins profond, vous voyez beaucoup plus de galaxies, donc vous pouvez avoir plus de signal sur bruit sur la détermination de cette matière noire. Ici, vous avez plusieurs reproductions de cette matière noire, où vous en voyez parfois un pic de matière noire, ou parfois vous en voyez moins. Donc certains auteurs, il y a eu beaucoup d'auteurs sur ce genre d'amas, les premiers avaient trouvé de la matière noire au centre, d'autres n'en trouvent pas, d'autres en trouvent. Par exemple, les Japonais, ici, ont fait cette étude avec leur télescope Subaru. Et vous voyez un peu les contours de matière noire qu'ils trouvent. On a l'impression qu'il y en a un aussi au centre, comme avait trouvé Madavi. Mais c'est un petit peu contraire à d'autres études. J et al. Ont encore trouvé un pic de matière noire. Mais très souvent, ils sont un peu à la limite de validité, peut-être à 3 ou 4 sigma. Et lorsqu'on va plus profond dans l'observation des galaxies de fond, certaines structures noires disparaissent. Donc pour cela, il faut quand même attendre d'avoir plus de galaxies de fond, donc avec les instruments futurs. Ici, vous avez justement une étude de plusieurs simulations avec un nombre de galaxies différentes. Donc ça, c'est des réalisations un petit peu au hasard. Et on voit qu'en effet, de temps en temps, vous avez de la matière noire au centre, de temps en temps pas. Donc on voit bien que c'est un petit peu fragile. Alors, quel est le nombre d'amas en collision qui a été observé aujourd'hui? En fait, on a vu qu'il y avait le boulet, il y avait cet Abel 520, et il y en a peut-être 3 ou 4 autres, mais pas plus. Hein, donc on en est là. C'est-à-dire que pour l'instant, on aimerait bien avoir justement ces instruments futurs pour en avoir le cœur net. Ici, vous en avez un qui s'appelle El Gordo. En espagnol, ça veut dire le gros. Il est très gros, en effet, quelques 10 puissance 15. Les rayons X sont vraiment complètement décalés par rapport aux galaxies et à la matière noire. Ici, vous avez une reproduction de la matière totale dans cet amas El Gordo. Et on voit cette fois que le gaz X a été complètement déplacé, même au-delà des galaxies, au-delà de la matière noire. Sans doute, il y a eu une collision et puis les galaxies sont revenues. Donc, ce n'est pas la première entrée de l'amas dans le deuxième amas. Donc ici, c'est un petit peu plus complexe. Il y en a qui sont beaucoup plus lents. Au lieu d'un boulet, c'est une balle de mousquet. C'est beaucoup plus lent, probablement. Donc ici, on voit qu'il y a un peu ce système-là, avec les contours en rouge, qui est le gaz chaud, les baryons. Et puis en noir, ici, vous avez la matière noire. Et on voit qu'il y a une séparation totale. Et là, il a été possible de donner une limite supérieure aussi à la section de collision, mais elle n'est pas aussi bonne que pour le boulet. Il y a aussi des tout petits boulets, c'est-à-dire des petites galaxies. Ce sont des groupes de galaxies, ce ne sont pas des amas. Vous voyez qu'on a 2 10 puissance 14. Pour un amas, on aurait plutôt 10 puissance 15. Donc, on a ces petites galaxies qui ont des lentilles fortes en même temps que lentilles faibles. Ce qui a été en blanc ici, c'est la matière noire, et en bleu, le gaz chaud. Donc, on a aussi séparation. Et puis enfin le baby-boulette, parce qu'il est quand même plus petit que le boulette. Enfin, il n'est pas si petit que ça, hein, 6 10 14 masse solaire. Et on voit que c'est un petit peu la même configuration. Tout le gaz chaud est au milieu et les galaxies, tout ce qui n'est pas collisionnel, est au bord. Donc la collision ici est aussi assez intéressante. Et finalement, là, on a appelé la boîte de Pandore parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'amas qui sont en collision. Donc le petit schéma qui a été fait est celui-ci. Vous avez un gros amas et un certain nombre de petits amas qui tombent dessus. Et on voit qu'il y a toujours séparation entre la masse noire qui est en bleu et le gaz chaud qui est en rouge. Cette fois-ci, il y a 5 sous-structures, donc c'est quand même assez compliqué. On peut quand même contraindre la section efficace de collision de la matière noire ici, mais ça dépend quand même du scénario de collision, donc ça commence à être un petit peu plus complexe. Alors je vais terminer par vous donner quelques éléments de données, de flot de données qui va nous tomber dessus à partir de 2020, parce qu'on a parlé de milliards de galaxies, on a parlé de 50 millions de spectres de galaxies, mais ça va être beaucoup de données à traiter. Alors ici, je vous montre les petites maquettes. Hein, c'est toujours intéressant de voir un petit peu la taille qu'ont ces structures. Ce qui va avoir lieu en Afrique du Sud, ces deux-là vont être en Afrique du Sud. Là, c'est des paraboles à haute fréquence. Vous voyez un petit peu la taille de la voiture. C'est un peu en gros 14 mètres de diamètre. Ici, vous avez à moyenne fréquence les tuiles qui ne bougent pas. Et ici, vous avez en Australie donc les basses fréquences. Ce nombre d'antennes est assez faramineux puisque vous avez 900 stations. Et chaque station contient 300 antennes de ce type. Donc ça, c'est des antennes dipolaires qui ne bougent pas. Mais vous avez en plus 96 paraboles de ce type-là. Alors ces paraboles-là, c'est une vraie photo. Actuellement, il y a déjà un début qui s'appelle ASCAP et qui contient 36 paraboles. Mais ils vont augmenter le nombre et en avoir 96. Donc il y a toute une palette de fréquences qui vont être observées avec ASCAP. Et puis avec le LSST, je n'avais pas encore donné de chiffres, hein, mais vous allez surveiller tout le ciel du sud, les Tuchili, jusqu'à une déclinaison de 15, avec deux surveys principaux, un qui va être profond, mais moyennement profond, mais très étendu, donc tout le ciel, avec une certaine magnitude limite dans toutes ces couleurs-là. Donc c'est multicouleur. Et puis parfois, des champs bien précis qui vont être très focalisés et très profonds. Mais le caractère très spécial de ce télescope, c'est qu'il va avoir un aspect temporel, c'est qu'il va avoir des pauses très courtes. Alors le champ est de 10 degrés carrés, hein, chaque fois il fait un champ de 10 degrés, mais avec des pauses de 10-15 secondes, ce qui fait que chaque partie du ciel sera visitée 800 fois. Et on va pouvoir regarder tout le ciel en 3 jours. D'où la survie des objets transitoires. Alors pour ce cas, le défi qui va nous arriver dessus, hein, c'est quelques pétabytes par seconde. Pour l'instant, on ne sait pas le traiter. Hein, donc on espère qu'avec le progrès de la loi de Moore et le progrès des ordinateurs, on arrivera en 2020 à traiter cela. Mais pour l'instant, il faudrait plusieurs machines de pétaflops qui travaillent en continu, c'est-à-dire 100 millions de PC en continu qui travaillent pour réduire les données qui arrivent. Donc c'est assez gigantesque. Quand vous regardez ce qui arrive à l'heure, hein, donc les données, c'est quelques exabytes. Exabytes, c'est 10 puissance 18, hein, je ne l'ai pas dit, pétabytes, c'est 10 puissance 15. Donc vous avez pour les paraboles, donc à haute fréquence, vous aurez 10 fois le débit d'Internet du monde entier aujourd'hui. Alors, je ne sais pas ce qui sera en 2020, mais si vous basez avec le débit Internet aujourd'hui, vous en avez 10 fois, et pour les réseaux phasés, moyenne fréquence, 100 fois. Vous voyez un petit peu le taux de données que vous allez recevoir. Alors, on espère que les robots vont traiter les données à notre place. Pour le LSST, là, comme on dit, on observe tout le ciel en 3 jours. Donc ça permet de voir tous les objets variables, donc les supernovae, les comètes, les astéroïdes, tout ce qui arrive va être vu, puisque même dans une seule nuit, vous avez 30 secondes de période, et puis on verra plusieurs fois dans la nuit des objets qui pourraient varier à l'ordre de l'heure. Et chaque nuit, vous aurez 2 millions d'alertes d'objets variables qui seront répartis dans le monde entier en 60 secondes. Donc on pense que c'est de ces 2 millions d'alertes, il y aura peut-être des centaines de 300 ou 400 supernovae par nuit qui seront détectées. Et ces supernovae sont très intéressantes puisque, comme vous le savez, ces supernovae de type 1A sont celles qui nous permettent d'échantillonner les distances de l'univers et de savoir, sont celles qui ont permis en l'an 2000 d'avoir l'accélération de l'expansion. Donc ces supernovae de type 1A, dont on va avoir quelques centaines par nuit, vont être ajoutées aux données qu'on va avoir pour traquer l'énergie noire avec précision. Pour donner un ordre de grandeur, actuellement, on a seulement 200 supernovae de type 1A qui sont disponibles et bien étudiées. Donc là, on va en avoir énormément. Donc voici le nombre 15 terabytes par nuit qu'il va falloir détecter. Alors vous allez me dire, bon, ça, le SST, la CSK, et pour Euclide, ben ça c'est ridicule, hein, 100 gigabytes par jour. Vous pouvez réduire toutes les données d'Euclide par un petit portable. Alors pourquoi ? Parce que simplement, c'est le débit que nous donne la liaison avec l'espace. Hein, on a dû réserver un certain taux, et il est tout petit. Tout petit. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont être traitées sur le satellite, et ensuite on donne des résultats un petit peu réduits. Mais vous voyez que chaque portable peut avoir 100 gigas par jour, hein, il n'y a aucun problème. Donc si vous avez peur des grandes données, vous pouvez vous spécialiser dans Euclide, mais pas dans ce cas, en quelque sorte. OK. Donc je conclue. Hein, si je peux serrer un petit peu tout ce qu'on va obtenir dans 10 ans, je pense qu'avec SCA, un des progrès majeurs sur la matière noire, c'est d'avoir la courbe de rotation étendue pour toutes les galaxies, au moins jusqu'à Z égale 5, alors qu'aujourd'hui, on ne connaît les courbes de rotation que pour Z égale 0 ou 0,1 ou 0,2, vraiment à la banlieue de la Voie lactée. Là, on pourra suivre, en fonction du temps, qu'est arrivé à la matière noire et au baryon dans toute l'histoire des galaxies. Ça, c'est un grand point. Avec Euclide et SCA, on va découvrir des centaines de milliers de lentilles fortes et pouvoir contraindre avec très grande précision si on est vraiment entouré d'un grand nombre de halos noirs, la fraction de matière noire dans ces sous-structures. On peut aussi, avec des lentilles faibles, cartographier les amas de galaxies, donc toute la tomographie que l'on aura avec les redshifts que l'on n'a pas aujourd'hui, donc des grandes cartographies de matière noire. Et puis aussi d'avoir le taux de croissance des structures avec Euclide, le RSD, le BAO, et qui va nous éliminer un grand nombre de théories de gravité modifiée. Aujourd'hui, on a 3 ou 4 papiers de gravité modifiée par jour. Et donc, toute cette activité va devoir être restreinte, du moins se rabattre sur les modèles qui vont rester à l'époque. Mais une grande partie de ces modèles va être éliminée, au moins dans 10 ans. Donc, je vous remercie.